Merci d'écouter Europe 1. Il est 19h.
Europe Soir. Raphaël Delvolvé.
Bonsoir à tous. Veille de grève massive pour des hausses de salaire des raffineurs, des cheminots, des énergéticiens, mais aussi des professeurs dans les cortèges demain. Pourquoi rejoignent-ils ce mouvement ? Jean-Rémy Girard du SNALC sera avec nous après le journal. Bonsoir Hélène Zélani.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous.
L'actualité, c'est aussi la mise en examen de la principale suspecte dans le meurtre de la jeune Lola ce week-end à Paris.
Oui, une femme de 24 ans qui souffrirait de troubles psychiques. Nous serons devant le collège de la fillette où élèves comme parents restent sidérés par la violence de cette nouvelle. Journée de grève interprofessionnelle demain, seule la moitié des trains régionaux en circulation. Pas de problème dans le métro parisien. Dans les stations-service, toujours la galère pour les automobilistes. Mobiliste, nouvelle réquisition de personnel aujourd'hui, notamment dans le dépôt de Fézin près de Lyon. La grogne des policiers contre la réforme de la PJ, des rassemblements dans une trentaine de villes, nous serons à Bordeaux.
Là, c'est cette fronde des pégistes, hein, nous en parlerons aussi avec la policière Linda Kebab, déléguée unité SCP Police, elle sera avec nous vers 19h45 dans la deuxième partie d'Europe Soir. Les autres titres, Hélène.
La semaine d'hommage au collège Samuel Paty de Valenton en région parisienne. Et puis on va connaître ce soir le nom du ballon d'or, Karim Benzema. Archi favori.
Ouais, même pas besoin de croiser les doigts. Bonsoir, chère Marlène Duret.
Bonsoir, Raphaël, et bonsoir à tous.
La tendance météo.
Alors, un temps plus sec demain, plus ensoleillé, plus doux aussi. Sachez que pour les journées de mardi, demain donc, et mercredi, cette grande douceur devrait se renforcer, en particulier dans le sud-ouest, où l'on va dépasser les 30 degrés avec des records à la clé. Météo complète à la fin du journal.
À tout à l'heure, Marlène. Europe 1. La suspecte mise en examen donc après le meurtre de la petite Lola dans le 19e arrondissement de Paris.
Oui, le corps de la fillette de 12 ans avait été retrouvé dans une malle vendredi. Une femme de 24 ans sans domicile qui souffrirait de problèmes psychiques a donc été mise en examen ce soir pour meurtre et viol avec actes de torture et de barbarie. Lola était scolarisée au collège Georges Brassens tout près de chez elle. Thibaut Hu, vous êtes devant l'établissement où la journée a été difficile entre douleurs et incompréhension.
Oui, tout à fait. Hein. Une ambiance très pesante. Les parents d'élèves en silence face à la grille, tout près de la rangée de fleurs déposées le long du collège. À la sortie, j'ai pu échanger avec Marie, une élève de 5e, la tête baissée, le visage grave, presque égaré. C'est la fin d'une première journée à l'école sans Lola, une journée très éprouvante.
Je la voyais tous les jours, elle me voyait tous les jours. Ça fait bizarre que quelqu'un est mort dans le collège, qu'il s'est passé tout ça. Waouh, c'était triste. Il y avait des mots partout, des bouquets de fleurs partout, tout on est habillé en noir.
Et aujourd'hui, ici, dans le collège Georges Brassens, une cellule de soutien psychologique est ouverte. Kenaya, une élève de 6e, a participé à des discussions en groupe avec des professionnels.
Il y avait plein de psychologues, ils étaient gentils, ils venaient à l'aide quand on avait besoin, quand on était triste. Ils nous ont dit d'oublier toute cette histoire et penser à autre chose, sinon ça va nous traumatiser. Ils nous ont juste dit que l'enquête n'est pas encore finie.
Voilà la tristesse, hein, mais aussi la peur des parents d'élèves plus nombreux que d'habitude à la sortie des classes. Amel ne laissera plus jamais sa fille seule sur le chemin de l'école.
On a décidé de l'accompagner. Elle rentre plus toute seule. Mais vraiment, c'est fini. Hein. Je pense au pire. Je me dis peut-être qu'elle peut croiser quelqu'un à la rue, dans l'ascenseur, dans l'immeuble. C'est la psychose. On a peur.
Des parents d'élèves pour beaucoup rivés sur leur téléphone portable qui attendent de découvrir les derniers éléments de l'enquête avec une question encore sans réponse. Pourquoi la petite Lola a-t-elle été tuée ?
Thibaut Hu devant le collège Georges Brassens à Paris. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est longuement entretenu au téléphone avec les parents qui ont quitté Paris.
Nous sommes à la veille d'une grande journée de grève, notamment dans les transports.
Oui, à l'appel de la CGT et de FO, les salariés de tous les secteurs sont en effet appelés à cesser le travail et à manifester pour les salaires et contre les réquisitions. Alors à quoi faut-il s'attendre ? D'abord dans les trains, Margot Fodéré.
Alors selon nos informations, à la SNCF, les lignes les plus touchées par la grève seront les TER, avec un train sur deux en moyenne. Même chose pour les trains intercités qui circulent en journée. Et les Transiliens en Ile-de-France fonctionneront aussi en service réduit. En revanche, la plupart des TGV et des trains internationaux comme le Thalys circuleront quasiment normalement. Et puis du côté de la RATP, le trafic devrait être normal ou quasiment normal sur la plupart des lignes de métro. Pas de perturbations majeures à prévoir non plus sur le tramway. Par contre, cela devrait être plus compliqué sur sur le RER, en particulier sur les lignes A et B, et sur les lignes de bus. Attention également à Lille, où le réseau de tramway risque d'être perturbé, selon le gestionnaire du réseau Ilévia. En revanche, pas d'inquiétude à Marseille. Le réseau RTM assure que le service de transport sera normalement assuré.
Margot Faudéré, les difficultés dans les transports, voilà qui ne va pas arranger les affaires des automobilistes. Obligés d'aller à la chasse au carburant, certains sont vraiment au bord de la crise de nerfs.
Ils prennent otage tout le monde. C'est vraiment inadmissible. Pour mon travail, je suis obligée d'aller, j'habite dans une banlieue, je dois habiller d'une banlieue à une autre banlieue. Comment je peux faire ? Ras-le-bol, ras-le-bol.
C'est compliqué parce que j'ai fait au moins ce... 4 autres stations. Et là, on est tous en train de payer pour quelque chose que nous n'avons pas demandé. On est en train de subir pour quelque chose que nous n'avons pas demandé.
C'est à chacun de faire des efforts. C'est surtout qu'en plus, ça emmerde tout le monde. Les gens vont partir en vacances. Qu'est-ce qu'on peut gagner ou qu'est-ce qu'ils cherchent que tout le monde descende dans la rue ?
Moi, je sais qu'il y a des revendications derrière. Donc, on prend notre mal en patience. J'ai peur surtout, c'est que le mouvement perdure à partir de mardi avec un autre gros blocage et que ça fasse effet boule de neige et que là, il n'y ait vraiment plus rien, quoi.
Des conducteurs excédés du côté de Saint-Mandé, en région parisienne, interrogés par Chloé Lagadou.
À quelques jours du début des vacances de la Toussaint, Emmanuel Macron réclame une solution le plus vite possible pour régler cette crise des carburants.
Oui, le président réunit d'ailleurs à l'Élysée la première ministre Elisabeth Borne et les membres du gouvernement concernés. Par ailleurs, le gouvernement a lancé de nouvelles réquisitions dans 2 dépôts de carburant Total, à Mardic, près de Dunkerque, comme la semaine dernière, mais aussi à Fézin, près de Lyon, où les personnels concernés ont reçu la visite des forces de l'ordre, comme le raconte le délégué FO Hakim Bellous.
On n'est pas des brigands, il faut le savoir, on est des salariés qui se lèvent tous les matins, qui faisons tourner l'économie de notre pays et qui faisons tourner notre entreprise. Moi je pense que c'est vraiment du zèle et c'est mettre de l'huile sur le feu. Les forces de l'ordre se sont déplacées chez eux ce matin, un petit coup sur la sonnette et puis voilà, messieurs, voilà, il y a un papier, c'est pour vous, il va falloir aller au travail. Alors apparemment ça s'est passé de façon cordiale, je vais être factuel, mais nous c'est sur le principe, c'est pas acceptable, il y a d'autres manières de faire. Sur le fond, c'est le 49-3 social, c'est tout, tout simplement. À l'Assemblée, c'est pareil, qu'est-ce qu'ils font ? On n'est pas majoritaire, et ben on passe en force, on prend le 49-3, et là c'est pareil.
Le délégué FO Total Raffinage Pétrochimie au micro européen de Laurent Humbert. Le prix des carburants a encore grimpé la semaine dernière, notamment celui du gazole, plus 12 centimes à 1,92 en moyenne, plus 7 centimes pour le super 95-10 à 1,66 €.
Et c'est donc dans ce contexte pour le moins agité que s'est ouvert aujourd'hui le mondial de l'auto à Paris.
Oui, 4 ans après la dernière édition, inauguration tout à l'heure par Emmanuel Macron, avant l'ouverture pour de bon au grand public demain, un salon Aurélien Fleureau placé sous le signe de la voiture électrique et du fabriqué en France.
Effectivement, ce mondial s'est ouvert ce matin avec les futures voitures électriques de Renault, notamment la R5 qui sera produite à Douai à partir de 2024. Lors de sa visite, Emmanuel Macron a pu découvrir également un concept qui préfigure ce que sera la future 4L, un petit SUV urbain qui sortira, lui, de l'usine de Maubeuge. Ensuite, le chef de l'État s'est rendu sur le stand de Stellantis, dont le président Carlos Tavares s'est engagé, lui, à faire passer de 6 à 12 le nombre de voitures électriques produites par les usines françaises de son groupe.
Nous avons ce matin déclaré, et je vous le confirme, qu'à l'horizon 2025, nous allons avoir 1 million de véhicules électriques installés en capacité en France. Sur l'ensemble de nos sites, y compris les sites mécaniques, nous avons de quoi produire 1 million de véhicules électriques en France.
Alors la star du salon pour Peugeot, la 408, sera produite, elle, à Mulhouse, tout comme la 308. Et puis le futur SUV électrique de Citroën sortira de l'usine de Rennes. De quoi crédibiliser l'objectif de 2 millions de véhicules électriques fabriqués en France en 2030.
Aurélien Fleureau en direct du Mondial de l'Auto, porte de Versailles à Paris, ouverture au public demain jusqu'à dimanche.
Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, la journée d'hommage à Samuel Paty dans le seul collège portant son nom. A tout de suite.
Europe Soir, 19h, 20h, Raphaël Delvolvé.
Merci d'être avec nous sur Europe 1, la suite du journal d'Hélène Zélani. 2 ans après l'assassinat de Samuel Paty, de nombreuses cérémonies d'hommage étaient organisées en milieu scolaire.
Oui, et notamment au collège Samuel Paty de Valenton, dans le Val-de-Marne, l'unique à porter le nom du professeur. Une semaine de la fraternité a commencé aujourd'hui pour honorer sa mémoire, notamment avec une chorale. Caroline Baudry était sur place.
Honorant Samuel Paty. Emporté par la voix de son professeur et celle de ses camarades, Enzo, 11 ans, ferme les yeux quand il chante, debout.
Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais je trouve qu'il est important de l'honorer.
Nizam et Judith plongent dans les souvenirs, ces longues minutes de silence à l'école l'année du crime et l'incompréhension.
Samuel Paty, lui, il a juste montré une caricature pour montrer que dans la vie, il y a des caricatures, etc.
Il a juste fait son travail. C'est Stéphane Digan, leur professeur au piano, qui a écrit les paroles, deux textes pour chanter les valeurs de la République et rendre hommage à son collègue massacré.
Nous n'allons pas nous taire, peu importe ce qui arrivera, on ne se taira pas, parce que c'est ce qui nous porte en réalité, nos valeurs, liberté, fraternité, égalité et surtout laïcité. C'est très important. Aussi jeune soit-il, la musique reste, garde ce pouvoir et ils sont réceptifs au message.
Les élèves se disent très fiers d'être au collège Samuel Paty. Ils feront découvrir jeudi, lors d'une cérémonie, leur hymne à la fraternité.
Caroline Baudry au collège Samuel Paty de Valenton dans le Val-de-Marne. 5 mineurs en garde à vue ce soir après de nouveaux incidents devant le lycée Joliot-Curie à Nanterre. Des mortiers d'artifice ont été tirés en direction de l'établissement sans faire de blessés.
Des centaines de policiers mais aussi de magistrats mobilisés dans toute la France aujourd'hui.
Oui, manifestation dans plus d'une trentaine de villes pour protester contre la réforme de la police judiciaire. Vous étiez au rassemblement de Bordeaux, Stéphane Place.
Oui, dilution des missions, disparition tout simplement de la PJ, outil pourtant très efficace contre la criminalité organisée. C'est ce que redoutent ces fonctionnaires, comme cette enquêtrice de police judiciaire.
Demain, nous enfermer dans un carcan départemental alors que les délinquants ne connaissent aucune frontière, alors qu'on a énormément de dossiers avec des gens très mobiles, que ce soit sur le territoire français ou à l'international. Le but de nos revendications, c'est d'espérer d'être maintenu à un niveau zonal et d'avoir une sanctuarisation et de nos missions et de nos effectifs.
Près de 200 manifestants devant le tribunal de Bordeaux, et pas seulement des policiers, avocats et magistrats comme Denis Roucou du syndicat de la magistrature, on rejoint le rassemblement.
L'enjeu, il est bien sûr sur un certain nombre d'affaires criminelles de délinquance organisée, mais il y a aussi une forte inquiétude sur la question des dossiers politico-financiers qui doivent pouvoir être traités par des policiers spécialisés et qui n'ont pas au-dessus de leur tête une espèce d'épée de Damoclès de devoir rendre compte dès qu'ils ont fait une audition à leur hiérarchie qui va transmettre tout de suite au préfet.
Inquiétude sur la qualité des investigations demain, interrogation sur la séparation des pouvoirs. Clairement, cette réforme suscite aujourd'hui beaucoup plus de questions dans le monde judiciaire qu'elle n'apporte de réponse.
Stéphane Place à Bordeaux pour Europe 1. Nouvelle journée de frappes russes en Ukraine, notamment à l'aide de drones iraniens. Bilan provisoire, au moins 8 morts, dont 4 à Kiev.
C'est la récompense ultime pour un footballeur. Le Ballon d'Or, il est décerné ce soir à Paris.
Oui, et on est déjà devant le théâtre du Châtelet où va se dérouler la cérémonie. Cyril Delamorinerie, ce n'est pas trahir un grand secret que de dire que le grandissime favori, c'est Karim Benzema.
Exactement, Karim Benzema qui a pris l'avion d'ailleurs cet après-midi avec son coéquipier du Real Madrid, le gardien Thibaut Courtois, direction la capitale française où il serait déjà arrivé. Alors le favori de cette 66e édition du Ballon d'Or sera bien accueilli. Il y a beaucoup de fans qui l'attendent autour du tapis rouge, sous la pluie devant le théâtre du Châtelet. Et parmi eux, Younes Efessal, persuadé que l'attaquant madrilène sera consacré.
On est venu pour voir Benzema prendre le Ballon d'Or.
Pour Benzema aussi, hein, il le mérite. Ouais, il a fait une bonne saison quand même. Parce que s'il ne l'a pas là, ça serait du vol cette année. Ça a été la meilleure année de sa vie. Et on espère que Kylian Mbappé soit pas loin derrière. Mais ça serait beau que ça soit Zidane qui lui passe le Ballon d'Or.
Alors Zidane qui remet le trophée à son ancien joueur Karim Benzema, 24 ans après avoir triomphé en 1998. L'image serait très belle, mais les organisateurs n'ont rien confirmé pour le moment. En revanche, sauf surprise, on l'a dit, Benzema succédera très probablement au palmarès à Lionel Messi pour devenir le 5e Français à obtenir la plus grande distinction individuelle, car l'attaquant de 34 ans sort d'une saison stratosphérique. Je vous donne un chiffre, 44 buts. En 46 matchs, il a évidemment remporté la Ligue des Champions. Benzema favori, on suivra ça évidemment en direct dès 20h dans Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau.
Benzema, Benzema, tu vas avoir le ballon d'or.
Allez Karim.
Ça chante.
Il y a du monde. Ça chante,
voilà.
Effectivement.
Donc on aura la réponse un petit peu avant 22h, mais aussi, et il ne faut pas l'oublier, le nom du ballon d'or féminin. La grande favorite, c'est l'Espagnole Alexia Putellas. Rendez-vous donc pour la soirée spéciale dans Europe 1 Sport. Les marchés financiers, la balle à Claire Lemaître de boursier.com. Paris est en, est, en nette hausse, Claire, ce soir.
Oui, un gain de 1,83% pour le CAC 40 qui termine à 6040 points. C'est le constructeur Renault qui prend la tête de l'indice en ce premier jour du mondial de l'automobile, plus 3,9% pour Renault. Son concurrent Stellantis bondit de 2,8%. Et ce soir, les marchés sont rassurés par la volte-face du gouvernement britannique sur l'essentiel de son projet de réduction d'impôts. La bourse de Londres gagne 0,9%, plus 1,7% pour Francfort, plus 2,1% pour Madrid et donc un gain de 1,8% pour le CAC 40 à Paris.
Merci Claire Lemaître.
C'était La Bourse avec la Caisse d'Épargne. 3000 experts en région aux côtés des professionnels et des entreprises. Caisse d'Épargne, vous êtes utile.
Et merci à vous Hélène Zélani que nous retrouvons demain pour un nouveau journal. Et rebonsoir, même si je déteste cette expression, rebonsoir chère Marlène Duret. Moins de pluie pour demain.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, plus sec, plus doux, plus ensoleillé. Alors on va retrouver quand même, il faut le dire, un ciel bien couvert en matinée de la Bretagne et des Pays de la Loire à la Champagne-Ardenne en passant par la Normandie, l'Île-de-France et le Loiret, avec des pluies en nette atténuation, voire inexistantes. Petite poche d'instabilité résiduelle du côté des frontières du Nord-Est. Alors qu'est-ce que ça veut dire, instabilité résiduelle? C'est des petites averses ponctuées d'un petit coup de tonnerre. Et puis des entrées maritimes à noter aussi dans le Languedoc-Roussillon qui peuvent donner quelques pluies sur le relief. Ailleurs, c'est assez bien dégagé pour l'évolution en journée, toujours du soleil dans de très nombreuses régions. Au nord du pays, les éclaircies vont percer un petit peu quand même là où il faisait gris le matin. J'ai donné les régions. Il pleuvra encore un petit peu dans le Nord-Est de façon très localisée. Pas vraiment de changement côté Languedoc-Roussillon sous les entrées maritimes. Et puis un voile nuageux va gagner l'ouest du pays à l'approche d'une nouvelle perturbation pluvieuse qui nous concernera jeudi.
Et puis l'info météo de cette semaine, on n'en a pas fini avec la douceur, elle continue, elle se renforce même.
Mais oui Raphaël, les maximales restent d'un niveau très élevé pour la saison. Allez, quand même à peine 18-19 entre la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais, c'est un peu l'exception. Mais ailleurs, comptez le plus souvent 21 à 26 sur la moitié nord, 21 à Paris, 25 à Bourges et Besançon, 26 à Nantes. Et puis sur la moitié sud, hormis le petit 22 à Nice et les 23 à Montpellier sous les nuages, sous les entrées maritimes, comptez en général 24 à 30 degrés. Je vous dis là où il fera les 30. Ouais. Azun, Montauban, Tarbes, Biarritz. Et ça va continuer à monter parce que mercredi, on attend jusqu'à 32 dans le Gers.
Ah oui, c'est impressionnant. Oui. Hein. Ouais. Voilà. Merci Marlène Duret. À tout à l'heure pour un nouveau point météo. À 23h sur Europe 1. Dans quelques instants, nous nous projetons sur la journée de demain. Journée, vous le savez, de grève massive. Il y a des cheminots dans la rue, des énergéticiens, des raffineurs évidemment, mais aussi des enseignants, des professeurs. À tout de suite sur Europe 1.
19h, 20h.
Raphaël Delvolvé.
Europe Soir.
Raphaël Delvolvé.
De retour sur Europe 1, demain, un appel large, massif à la grève a été lancé dans plusieurs secteurs. On parle beaucoup des raffineurs de chez Total, les raffineurs syndiqués à la CGT. On parle également des énergéticiens, les ouvriers d'EDF. Plusieurs centrales nucléaires sont en arrêt depuis plusieurs semaines. Et puis il y a également les enseignants, les professeurs. De nombreux syndicats appellent à la grève, dont le SNALC, le syndicat national des lycées et collèges. Nous sommes avec son président Jean-Rémy Girard. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, ma question est assez triviale, vous me l'accorderez, assez simple. Que font les enseignants dans ce mouvement, parti des raffineurs de chez Total et Esso, sur fond de critiques des super-profits?
Alors, les enseignants, en fait, ou plutôt... Une partie des enseignants est appelée à la grève depuis beaucoup plus longtemps que les raffineurs. C'est ce mouvement du 18 octobre au départ est un mouvement des lycées professionnels, de la voie professionnelle, puisqu'il y a une réforme de la voie professionnelle qui a déjà été lancée alors qu'on sort à peine d'une réforme de la voie professionnelle. Et tous les syndicats, y compris donc le SNALC, mais aussi d'autres qui n'appellent pas à la grève plus large, voilà, tous les syndicats appellent en fait depuis le début à cette grève de la voie professionnelle. Donc en fait, demain dans les rues, il y aura essentiellement des enseignants de lycées professionnels. C'est ça qu'il faudrait retenir, parce que cette grève des lycées pro, qui est, je vous dis, qui a été décidée depuis plus longtemps, est en train d'être complètement passée sous silence du fait du mouvement qui s'est j'allais dire, greffé le même jour a posteriori.
Alors, je l'avais noté, hein, tout à fait, un appel à la grève le 18 octobre avait déjà été lancé sur la question de la réforme de la voie professionnelle. J'ai aussi lu qu'il y avait, lors de la fin septembre dernier, le 29 septembre dernier, des revendications sur fond de hausse de salaire.
Alors, ça... Certaines organisations qui appelaient déjà d'ailleurs le 29 septembre dernier et qui appellent à une sorte d'interprofessionnel gigantesque comme ça, effectivement, ont, refont finalement à peu près la même grève que celle du 29 septembre. C'est pas le cas du SNALC, alors ça veut pas dire qu'on leur souhaite pas de la réussir, hein, évidemment, par solidarité syndicale. Néanmoins, nous, on est quand même très très clair. On sait que ces grèves de un jour à intervalles réguliers sur les salaires, c'est pas forcément les plus efficaces, d'autant, surtout quand elles nous ne concerne pas spécifiquement l'éducation. En revanche, nous, on est à peu près certain que la grève de la voie professionnelle, qui est pas spécifiquement sur des revendications salariales, hein, ou pas uniquement, en tous les cas, qui est vraiment sur des questions de fond, nous, on pense qu'elle va être très 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 suivie et on espère qu'elle va être également assez suivie par les médias, parce que les professeurs de lycée professionnel sont rarement sur le devant de la scène, on parle assez rarement d'eux, c'est ceux qui sont dans les conditions souvent les plus difficiles, et nous, au SNALC, on pense que c'est important de faire passer ce message. Un tiers des élèves de lycée sont dans des lycées professionnels et chaque réforme après réforme, on détruit un petit peu plus les lycées professionnels.
Alors, fait rare cette année, le président de la République s'est exprimé avant la rentrée. Il a annoncé son souhait de renforcer le lycée professionnel, notamment de faire passer le temps de stage à 50%. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette réforme annoncée par Emmanuel Macron ?
Là, en fait, on est chez George Orwell, c'est-à-dire que cette annonce n'est pas renforcer le lycée professionnel, c'est l'affaiblir, le lycée professionnel.
Je cite le président de la République, hein, vous l'aurez bien compris.
Ah oui, oui, mais j'entends bien. Je pense qu'au SNALC, on n'est pas d'accord avec ce que dit le président de la République.
Alors expliquez-nous pourquoi.
Très bien. En fait, plus on fait de périodes de stage, plus ces périodes de stage, il va falloir les prendre sur autre chose. Donc sur les horaires qu'ont déjà les élèves en lycée professionnel. Et... comme il a été annoncé qu'on ne toucherait pas aux disciplines générales, ce qui paraît logique, parce que si on y touchait encore une fois, ça voudrait juste dire qu'on les supprime définitivement, vu qu'il y en a quasiment déjà plus, eh bien, c'est-à-dire qu'on va réduire les enseignements professionnels. À un moment, l'équation, elle a un nombre d'inconnus très limité. Et pour nous, ça va faire une formation moins bonne pour nos lycéens, parce que on est avec des lycéens qui sont mineurs, il faut le rappeler, en lycée professionnel, il y a presque plus de redoublement hein, maintenant, donc ils ont moins de 18 ans, qui peuvent faire très très peu de choses en fait pendant leur stage en entreprise, qui ont déjà des difficultés à en trouver actuellement, parce qu'il y a déjà des périodes de stage, hein, c'est quand même pas nouveau, et qui au contraire ont besoin des enseignements dispensés en lycée professionnel, à la fois pour compléter ces stages pour faire ce qu'ils ne peuvent pas faire en entreprise et pour aussi avoir une culture plus générale qui va leur permettre, si l'insertion professionnelle immédiate ne marche pas très bien, de se réorienter à court ou à moyen terme. Et pour nous, on est en train en fait de transformer les lycées professionnels en des sortes de centres de formation très très court-termistes, adéquationnistes à des besoins, aux besoins des entreprises, mais avec des besoins qui peuvent changer tellement vite qu'ensuite il y a un risque d'avoir formé des travailleurs Kleenex qu'on va jeter quand on n'aura plus besoin de leurs compétences ultra spécifiques qu'on a fabriquées au moment M.
Jean-Rémy Girard du SNALC, le syndicat national des lycées et collèges, est avec nous ce soir sur Europe 1. Vous avez pu donner votre message assez clairement, de façon assez limpide ce soir. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez vu d'autres professions prendre, si vous me permettez l'expression, cette date du 18 octobre ? Est-ce que vous n'avez pas peur que le message que vous venez de porter ce soir soit dilué ?
Ah, c'est même pas qu'il soit dilué, c'est qu'il disparaisse en fait assez complètement.
Heureusement,
ça, c'est pas la peur spécifique du SNALC. C'est pas la peur spécifique du SNALC. Ce sont les collègues de lycée professionnel qui ont été extrêmement surpris. En fait, de voir d'un seul coup cette date qui était posée depuis assez longtemps dans le paysage syndical était élargie à tout un tas de choses qui n'avaient strictement rien à voir avec les revendications de nos collègues. Donc, une fois encore, nous, il ne s'agit pas du tout de juger les autres professions. Bien entendu que les autres professions ont des revendications, elles revendiquent. Enfin, voilà, hein, le droit de grève, c'est un droit. Je divin, ça aurait peut-être été bien aussi, quoi. Parce que là, il y avait vraiment un moment pour parler des lycées pro qui était arrêté. Et voilà, on sait très bien que ça va finir ou on en parlera très peu.
Et vous reviendrez, Jean-Rémy Girard, hein, pour le syndicat national des lycées écolages, en reparler sur Europe 1. Avant de se quitter, est-ce que vous avez une idée du taux de suivi demain, donc chez les enseignants des lycées professionnels?
Alors, c'est toujours très difficile de le dire avant, bien entendu. On pense qu'on devrait être sur une grève majoritaire, c'est-à-dire on imagine qu'on ait des taux de grévistes. Alors, taux de grévistes réels, hein, c'est-à-dire calculés sur ceux qui doivent être là à 8h30, à 8h ou 8h30 dans les classes, de plus de 50%.
Alors, vous avez sans doute vu les prévisions de la grève à la SNCF, hein, un train sur deux en région seulement, rejoindre un mouvement, hein, malgré vous, qui risque d'exaspérer très sérieusement des Français déjà privés pour certains de leurs voitures. C'est pas prendre le risque d'un mauvais coup de pub. On peut plus changer la date de la grève côté du SNALC.
Ah bah nous, parce que non, alors on peut pas la changer côté du SNALC parce que c'est une grève intersyndicale qui est décidée depuis longtemps, donc c'est quand même quelque chose qui a arrêté, il y a un parcours de manifestation, ça se fait pas d'un claquement de doigts, effectivement, une grève, et puis parce que il y a aussi urgence, hein, c'est-à-dire que cette réforme du lycée professionnel, elle va pas nous attendre, hein. Les premières mesures sont supposées s'appliquer dès la rentrée 2023. Il y a déjà beaucoup de choses qui nous ont été dites quand on a rencontré la ministre de la formation professionnelle. Donc, pour nous, il y a urgence à agir et à porter un autre modèle que celui qui nous est imposé.
Merci Jean-Rémy Girard, président du SNALC, le syndicat national des lycées et collèges, d'avoir répondu favorablement à l'invitation d'Europe Soir. Dans quelques instants, nous allons parler de voitures électriques. Emmanuel Macron a adressé plusieurs objectifs aujourd'hui. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir.
Raphaël Delvolvé.
De retour sur Europe 1, nous parlons maintenant de cet objectif avancé par le président Emmanuel Macron himself. Le président qui s'est rendu au Mondial de l'Auto de retour après 4 ans d'absence à Paris. Le président avance un objectif de 2 millions de véhicules électriques en circulation en 2030 dans l'Hexagone. Nous en parlons maintenant avec Fabrice Godefroy, expert mobilité et environnement chez 40 millions d'automobilistes. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, la France veut entrer dans le jeu des véhicules électriques. Elle veut, mais en fait, elle n'a pas le choix. On le rappelle, l'Union européenne, le Parlement de Strasbourg a voté le 8 juin dernier cette règle, bannir la vente de véhicules thermiques neufs d'ici 2035. La France n'a pas d'autre choix.
Bah, la France, elle avait annoncé 2040, quelques mois avant. Et effectivement, apparemment, ce n'était pas suffisamment ambitieux parce que la Commission européenne, effectivement, a fixé 2035 pour la fin du moteur thermique. En 2035, au niveau des ventes, donc ça veut dire véhicules 100% électriques.
Que cohabiteront des véhicules électriques
et
des véhicules thermiques vieux, en fait. Voilà.
Ah bah ça, c'est le parc roulant. Le parc roulant, effectivement, les ventes, c'est 2035. Après, il y aura l'inertie du parc roulant, évidemment, où il y aura encore des moteurs thermiques et des hybrides, notamment.
Alors, ça paraît spectaculaire. On a l'impression, dit comme ça, qu'en 2035, il n'y aura plus que des véhicules électriques, ou en tout cas, ils composeront la majorité du parc roulant. Mais il y a quand même une clause de revoyure d'ici 2026, imposée par deux grandes nations de l'automobilier en Europe, l'Italie et l'Allemagne.
Oui, parce qu'il peut y avoir d'autres solutions. Là, on est parti sur le 100% électrique. Alors, ce n'est pas une question de savoir si c'est bien ou pas, mais il peut y avoir d'autres solutions. Bon, il y a déjà l'hydrogène. Et puis aussi, il y a éventuellement les carburants de synthèse qui pourraient être aussi une solution intéressante. Donc, ils ont prévu, et puis l'hybride rechargeable, pour l'instant, qui n'est pas dans la boucle. Donc, on va voir comment ça va se passer d'ici là.
Alors, c'est un effet d'annonce, une décision plus politique qu'industrielle?
Ah non, je pense qu'on n'a pas le choix. Je pense que les constructeurs, non seulement n'ont pas le choix, je pense que la France, comme les autres pays européens, n'ont pas le choix. Non, c'est la Commission européenne qui, de toute façon, fixe maintenant les stratégies à la fois des pays et des constructeurs.
Fabrice Godefroy, expert mobilité et environnement chez 40 millions d'automobilistes, est avec nous ce soir pour parler de la voiture de l'avenir, la voiture électrique. Alors, il y a plusieurs difficultés. Il y a une difficulté environnementale. Ça paraît paradoxal à dire, mais pour construire une voiture électrique, il faut beaucoup d'argent. Déjà, ça coûte combien de construire une voiture électrique aujourd'hui?
Alors, au niveau des ventes, c'est à peu près 50% plus cher qu'une véhicule thermique.
À construire, donc
Non, au niveau des ventes. Mais donc, ça veut dire que proportionnellement, au niveau de la fabrication, c'est le cas. Puis le souci, effectivement, c'est les matières premières, donc l'extraction du lithium, du cobalt, la fabrication des batteries, qui est d'ailleurs 85% des batteries aujourd'hui sont fabriquées d'ailleurs en Asie, et notamment en Chine. avec de l'électricité et charbon. Donc effectivement, au niveau écologique, on peut se poser quelques questions. Donc, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on était... on avait le carburant sur lequel, évidemment, on était dépendant. Mais par contre, on était des pays constructeurs en France, notamment en Italie, en Allemagne, en France. On était des pays constructeurs. Mais aujourd'hui, les batteries sont fabriquées principalement en Asie, en Chine. Donc, effectivement, il va falloir qu'on rattrape un peu ce temps perdu.
C'est-à-dire que c'est très paradoxal. Je suis au volant de ma voiture électrique, je ne sais quelle marque, marque chinoise ou française. Mmh. En fait, je pense ne pas polluer, mais je pollue. Mais jusqu'à combien de kilomètres ?
Alors, non.
À partir de quand ça devient, l'empreinte carbone devient neutre ?
Alors,
comme
ça, c'est un grand débat. Parce qu'effectivement, on dit qu'il y a une dette carbone plus importante à la fabrication d'un véhicule 100% électrique.
La fameuse extraction des matières premières.
L'extraction du lithium, du cobalt, le raffinage, le fait que justement on fabrique des batteries, notamment avec de l'électricité charbon en Chine. Donc il y a tout un débat là-dessus. Donc c'est au bout de combien de kilomètres la dette carbone s'efface? Il y a des débats là-dessus, de l'ADEME, au bout de 30 000 km, 40 000 km, il y a des débats là-dessus. Mais c'est sûr que ce n'est pas neutre. De toute façon, il n'y a rien de neutre. Hein.
Alors voilà, la voiture électrique, le véhicule électrique, parce qu'il n'y a pas que des voitures, il y a des petites voitures, des grandes voitures, pose un problème écologique. C'est paradoxal, mais il y a aussi une dimension économique qui est très importante. La concurrence extrêmement rude des marques chinoises. Je veux en citer quelques-unes. Geely, Great Wall, BYD ou encore CATL. Je ne les connais pas, donc je les prononce un peu comme je les lis. Voilà, ce sont des marques chinoises. Est-ce que ce n'est pas
le groupe
peine perdue ?
Est-ce
qu'on n'entre pas dans la bataille de l'électrique, comme le titre ce soir, le journal Le Monde, un peu tard, en sachant que la Chine vend actuellement 44% des véhicules électriques dans le monde et contrôle, vous l'avez dit, 56% de la production de batteries.
Alors, je vais essayer d'être positif. Le problème, ce n'est pas le véhicule électrique en lui-même. Le problème, c'est de l'imposer à 100%. C'est ça le problème, que ça soit au niveau de l'industrie, mais aussi au niveau des automobilistes. Et surtout avec un peu de retard. Donc effectivement, il aurait plutôt fallu avoir un mix énergétique, qu'on essaie d'avoir d'autres solutions. Le problème, c'est le 100% électrique. D'ailleurs, comme à l'époque, on a imposé le 100% diesel, hein, qui était d'ailleurs un problème. Puis maintenant, on veut punir les gens d'avoir un véhicule diesel. Donc demain, on les punira peut-être d'avoir un véhicule 100% électrique. On se posera peut-être la question à ce moment-là.
Alors, les grands industriels français de l'automobile s'y mettent. Hein, Fabrice Godefroy, expert mobilité environnement chez 40 millions d'automobilistes. Vous l'avez lu comme moi, Stellantis, hein, le patron Carlos Tavares, qui était d'ailleurs très critique lorsque la Commission européenne a fait voter la fin de la vente des véhicules thermiques en 2035. Il parlait d'erreurs politiques, une sorte de mort programmée de l'industrie automobile made in France. Il annonce quand même aujourd'hui 12 véhicules 100% électriques à l'horizon 2023 en France. Ces véhicules Peugeot, made in France, ils vont coûter très cher. Un véhicule électrique aujourd'hui en France, ça vaut entre 20 000 et 90 000 euros. Il y a des modèles chinois, vous allez me le confirmer, Fabrice Godefroy, qui se vendent 13 000 euros.
Oui, mais vous voyez, regardez, vous parlez des véhicules les moins chers, 20 000 euros, c'est la Dacia Spring aujourd'hui. La Dacia Spring, elle n'est pas très chère parce que là, une autonomie assez faible, c'est un petit SUV qui est très bien hein, pour rouler
petite distance.
Déplacer petite distance, c'est parfait. Sauf que pour être compétitive, elle est fabriquée où ? 100% en Chine. Et là, je ne parle pas que de la batterie. Elle est fabriquée 100% en Chine. Donc, on voit bien l'écart qu'il y a actuellement. Donc, on sait qu'on veut créer en Europe et il va falloir qu'on le fasse parce que de toute façon, comme on va y aller sur le 100% électrique, il va bien falloir qu'au niveau industriel, on s'organise. Sauf qu'il va falloir être extrêmement compétitif dans un monde où de toute façon, l'économie d'échelle, c'est la Chine qui l'a entre l'extraction des matières premières, le raffinage, les cellules de batterie. Donc, on arrivera peut-être à assembler des batteries sur le territoire français ou en Europe, ou les fabriquer. Mais c'est vrai que ça va quand même être compliqué, c'est sûr. Et alors, le prix, il va falloir être compétitif par rapport aux Chinois. Ça ne va pas être simple.
Alors, l'autre annonce du jour sur laquelle je voulais entendre votre avis, Fabrice Godefroy, expert mobilité et environnement chez 40 millions d'automobilistes, c'est celle du bonus écologique appelé à passer de 6 000 à 7 000 euros dans la limite. Hein, il faut bien le préciser. D'une voiture qui ne vaut pas plus de 47 000 euros. Autant dire qu'avec ça, le Français ne s'achètera pas une Tesla.
Non, c'est vraiment pour les petites citadines, effectivement, ce n'est pas pour les gros véhicules. Bon, ça peut s'entendre, hein, à partir du moment où on a les moyens d'acheter un véhicule assez...
Mais est-ce que c'est un geste qui va motiver les Français à passer à l'électrique.
Bah oui, et de toute façon, je vous l'ai dit, on n'a pas le choix. Les automobilistes n'ont pas le choix. Mais ce n'est pas que le problème. Il y a aussi le problème, c'est qu'il faut être électro-compatible pour acheter un véhicule électrique. C'est-à-dire que l'idéal, évidemment, c'est d'avoir une maison avec une borne de recharge chez soi. C'est ça, d'être électro-compatible, c'est-à-dire de pouvoir la recharger chez soi. Parce que s'il faut qu'on utilise, je prends par exemple dans les centres-villes, c'est là où c'est paradoxal, on va dire dans les centres-villes, par exemple à Paris, il faudrait passer au 100% électrique pour éliminer la pollution. Sauf qu'on est dans un immeuble haussmannien, pour avoir un droit à la prise, ça ne va pas forcément être facile. Donc là, il faut s'appuyer sur les bornes de recharge publiques. Il y en a moins de 70 000 aujourd'hui. Je rappelle quand même que l'objectif en 2021, c'était 100 000. Donc vous voyez, on a un petit peu de retard là-dessus. Donc c'est ça qui est fou, c'est-à-dire qu'on met la pression à la fois sur l'industrie automobile, sur les constructeurs. On met la pression chez les automobilistes qui n'ont pas le choix, ils le sentent bien. Il y a les zones de faible émission aussi qui vont se rajouter là-dessus. Et derrière, on n'a pas forcément les infrastructures qu'il faut. Donc effectivement, il va falloir sacrément accélérer.
Les zones de faible émission, c'est un autre sujet. Hein. On vous réinvitera pour en reparler.
Oui, mais c'est l'entonnoir, c'est l'entonnoir pour nous amener vers le 100% électrique.
Et d'autant plus hein, qu'on ne cesse de nous parler de prix de l'énergie, en particulier de l'électricité, qui ne cesse d'exploser. Mmh. Est-ce que c'est le moment de parler de voitures électriques, de transition un peu forcée, un peu accélérée?
Il y a plusieurs choses. C'est sûr que l'énergie, j'espère que cet hiver, on n'aura pas une pénurie d'électricité parce que pour les voitures électriques, ça risque d'être compliqué. Bon, d'un autre côté, en ce moment, on a le problème du carburant. Bon, voilà. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il va falloir évidemment qu'on puisse avoir de quoi recharger. Et donc, les bornes de recharge notamment, ça c'est sûr.
Et une charge rapide d'une voiture, vous allez me le confirmer, Fabrice Godefroy, c'est une demi-heure.
À une demi-heure pour 80%, oui.
C'est beaucoup plus lent d'aller faire le plein. Quand on trouve du carburant, évidemment.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon, les choses vont évoluer, vont s'améliorer. Mais bon, pour l'instant, je pense qu'on met un peu la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'on soit complètement organisé pour imposer le véhicule 100% électrique. Là, on a plutôt fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on nous impose le véhicule 100% électrique et derrière, on n'est pas forcément organisé pour ça.
Merci Fabrice Godefroy, expert mobilité et environnement chez 40 millions d'automobilistes, de nous avoir éclairés sur cette bataille de la voiture électrique qui ne fait que commencer. On l'aura bien compris. À très bientôt.
Merci
sur Europe 1.
Beaucoup.
Restez avec nous dans quelques instants, la colère des officiers de la police judiciaire. A tout de suite.
Europe Soir,
Raphaël Delvolvé.
De retour sur Europe 1, la colère ne faiblit pas au sein des officiers de la police judiciaire. Ils étaient plusieurs centaines aujourd'hui dans une trentaine de villes de France, notamment Bordeaux, où Stéphane Place était au rassemblement pour Europe 1.
Oui, dilution des missions, disparition tout simplement de la PJ, outil pourtant très efficace contre la criminalité organisée, c'est ce que redoutent ces fonctionnaires, comme cette enquêtrice de police judiciaire.
Demain, nous enfermer dans un carcan départemental alors que les délinquants ne connaissent aucune frontière, alors qu'on a énormément de dossiers avec des gens très mobiles, que ce soit sur le territoire français ou à l'international. Le but de nos revendications, c'est d'espérer d'être maintenu à un niveau zonal et d'avoir une sanctuarisation et de nos missions et de nos effectifs.
Près de 200 manifestants devant le tribunal de Bordeaux et pas seulement des policiers, avocats et magistrats comme Denis Roucou du syndicat de la magistrature. On rejoint le rassemblement.
L'enjeu, il est bien sûr sur un certain nombre d'affaires criminelles de délinquance organisée, mais il y a aussi une forte inquiétude sur la question des dossiers politico-financiers qui doivent pouvoir être traités par des policiers spécialisés et qui n'ont pas au-dessus de leur tête une espèce d'épée de Damoclès de devoir rendre compte dès qu'ils ont fait une audition à leur hiérarchie qui va transmettre tout de suite au préfet.
Inquiétude sur la qualité des investigations demain, interrogation sur la séparation des pouvoirs. Clairement, cette réforme suscite aujourd'hui beaucoup plus de questions dans le monde judiciaire qu'elle n'apporte de réponse.
Stéphane Place pour Europe 1 au rassemblement des officiers de la police judiciaire. Vous l'avez entendu, il n'y avait pas d'ailleurs que des policiers, il y avait également des magistrats et des avocats. Nous en parlons maintenant avec la policière Linda Kebab, déléguée unité SCP Police. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, ces enquêteurs de la police judiciaire ont battu le pavé aujourd'hui dans 36 villes de France au total. Ils ont redit leur opposition au projet de réforme de la police. Ils visent à placer, à centraliser en silo, hein, comme le dit le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, tous les services de police à l'échelle du département avec un seul directeur qui aura autorité sur tous les services. Hein, je résume, c'est très technique hein, comme réforme. Vous y êtes favorable, opposé, Linda Kebab?
Alors nous, en tant qu'organisation syndicale, et d'ailleurs on est la seule à ce jour, on y est opposé en l'état. Pourquoi ? Parce que cette réforme, en une phrase pour que les gens comprennent, cette réforme, ça fait 2 ans qu'on nous l'évoque. Elle a déjà des sites qui ont débuté, que ce soit dans les DROMCOM ou en métropole. Il n'y a pas eu d'audit qui a été fait, on n'a pas de retour dessus. En revanche, nous, on est très sceptiques sur son efficacité puisqu'on a des retours d'expérience des collègues et si vous voulez, on peut rentrer dans le détail, qui nous démontrent que c'est absolument inefficace, voire même dangereux, puisque c'est facilement manipulable. Pourquoi est-ce qu'on y est opposé en l'état ? Pour la simple raison, c'est qu'on est face à une administration et un ministère qui refusent de nous donner les tenants de cette réforme, c'est-à-dire laissez-nous faire, vous verrez bien, ça va bien se passer. Or, de notre côté, on estime que ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Évidemment, on est un petit peu isolé. Pourquoi ? Parce qu'on est, lors des rares audiences qu'on a eues sur le sujet de la DDPN, on s'est retrouvé face en fait à des autorités qui voulaient mener cette réforme coûte que coûte et qui étaient aussi accompagnées par le corps de conception et de direction, c'est-à-dire les commissaires de police dans la police nationale et leurs représentants du personnel qui n'étaient pas soucieux en fait de l'intérêt de cette réforme pour les effectifs, de l'intérêt de cette réforme pour l'efficacité au service de la population et dont la seule inquiétude, et particulièrement le syndicat des commissaires UNSA, dont la seule inquiétude tout au long des négociations a été de savoir quelle serait la nomenclature de telle DDPN, quelles seraient les bonifications qui l'accompagnent. Alors que depuis le début, on tire la sonnette d'alarme, on dit attention, cette réforme des DDPN recèle des difficultés d'application sur le terrain, et particulièrement le fait que quand le politique s'en mêle, eh bien, c'est toute la filière investigation PJ inclus, qui aujourd'hui est écartée en fait finalement de la manipulation, on va dire, politique, eh bien, c'est toute la filière investigation, mais tous les policiers en fait, de sécurité publique, de la PAF, du renseignement, qui sont désormais en danger.
Voilà, hein, la direction centrale de la police judiciaire, ce sont 4000 enquêteurs, plus de 1500 techniciens, scientifiques, agents administratifs répartis dans des services centraux et territoriaux. En fait, ce qu'ils disent hein, dans les cortèges, les pégistes, comme on les appelle, c'est la perte de l'autonomie, quoi. C'est un service très particulier au sein de la police. Les policiers judiciaires, ils dépendent des magistrats, pas du ministère de l'Intérieur. C'est un peu l'État dans l'État, si vous me permettez l'expression, Linda Kebab. Linda Kebab était avec nous sur Europa. On va tenter de rétablir la liaison. Linda Kebab, policière, déléguée, unité SGP. Police, on va peut-être marquer une petite pause. Non, je crois que Linda Kebab est de retour avec nous. Linda Kebab, vous m'entendez ?
Votre message, si vous...
Non, je crois que nous sommes tombés sur son répondeur. On va marquer une petite pause sur Europe 1 et on revient dans quelques instants. A tout de suite.
Europe Soir,
Raphaël Delvolvé.
Dernière partie d'Europe Soir, nous sommes avec la policière Linda Kebab, déléguée unité SGP Police. Nous avons rétabli la liaison. Vous nous entendez, Linda Kebab, hein ?
Parfaitement.
Juste avant la pause, vous nous parliez hein, de retour d'expérience de cette réforme de la PJ hein, qui suscite beaucoup de colère. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, vos collègues de la police judiciaire, Linda Kebab ?
Je vais vous donner un exemple tout simple et qui va vous parler. Dans le... Eh bien, les policiers, toutes les filières policières sont totalement, parce que c'est le sujet d'actualité, donc c'est extrêmement politique, sont totalement concentrées sur dans la lutte contre l'immigration illégale. Or, on a constaté dans la foulée, eh bien, l'explosion d'autres délits, de délits annexes, et notamment, par exemple, les vols à effraction. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va se passer que quand on met, et c'est le cas aujourd'hui dans ce département comme dans d'autres, on met les budgets et les moyens RH entre les mains d'un seul préfet via le directeur départemental de la police nationale, eh bien, la lutte, en tout cas, le travail des policiers, ne se fait plus dans l'intérêt de prestation de sécurité à la population et pour l'investigation dans le travail d'émergence de la vérité, mais sur une thématique en particulier. Et puis, quand on a fini avec cette thématique, en fonction de comment les caméras des médias sont tournées sur le territoire ou sur le politique, eh bien, on va changer de thématique. Et donc, incessamment, on a des policiers qui ont perdu du sens dans leur travail et qui ne peuvent pas permettre à la population de pouvoir travailler en fonction des besoins sur les territoires, mais en fonction de ce qui se dit devant les caméras. Et puis, il y a une deuxième problématique, et c'est d'ailleurs une des raisons de l'opposition des collègues de la PJ. Eh bien, vous avez des départements où on a constaté que des préfets voulaient s'immiscer, mettre le nez et prendre connaissance du contenu d'enquête concernant des délits financiers. Or, quand vous avez des patrons de PJ qui s'y opposent, or, ils sont sous la houlette de DDPN, donc de directeurs départementaux de la police nationale, ils perdent cette autonomie, ils perdent cette indépendance, et lorsqu'ils refusent de se plier à la requête, eh bien, qu'est-ce qu'on leur fait ? puisqu'il y a la gestion RH entre les mains du DDPN, on leur retire des effectifs, particulièrement dans les brigades qui sont concernées. Un dernier point, l'investigation dans la police est un parent pauvre en souffrance. Il y a une surcharge de travail incroyable dans les commissariats. En sécurité publique, c'est effroyable. Tout le monde vous dira, si vous connaissez une victime, elle vous dira, j'ai déposé plainte, j'ai attendu 3 ans avant d'avoir mon premier coup de fil de la part d'un policier pour avoir des nouvelles sur l'enquête. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs, parce que les outils procéduraux sont inefficaces, parce que, il faut le dire, les chefs de service qui sont fébriles vis-à-vis de certains parquets, oblige les policiers à prendre des plaintes pour tout et n'importe quoi. Et même pour, je cite, et c'est des cas réels, lorsqu'une personne vient se plaindre parce qu'une licorne l'a attaqué, je vous jure que c'est vrai. Et donc derrière, ce sont des surcharges de travail à la sécurité publique. Et qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit, bah, la PJ, elle fonctionne bien, on va la déshabiller pour habiller Paul. Sauf que le résultat, c'est que tout le monde aura froid, PJ inclus.
On aura bien compris ce qui motive la colère des officiers de la police judiciaire. Avant de vous quitter, Linda Kebab, j'aimerais m'adresser à la policière d'expérience que vous êtes. Un meurtre épouvantable s'est produit à Paris ce week-end. Une jeune fille de 12 ans, Lola, tuée dans des conditions abominables. Je vous demande de taire ce soir les détails. Si vous les avez, c'est absolument indicible. Je voulais vous demander si cela pouvait être considéré comme un simple fait divers. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place au sein même du commissariat chargé de l'enquête. C'est assez rare, non ?
Oui, c'est assez rare parce que, en effet, nous, on a été informés très, très rapidement des faits, de l'horreur dont je passerai les détails. Comme vous avez dit, ils sont juste indicibles. En fait, un fait divers, c'est lorsqu'il y a des choses qui se passent dans une société et auxquelles on ne peut pas échapper, qui sont propres à l'humain. Sauf que là, dans ce type d'événement, on a eu un devoir de réflexion parce que beaucoup se plaignent de la récupération politique qui peut en être faite. Or, la récupération, c'est comme la nature, elle n'existe que sur le silence d'autrui. Et donc, oui, on doit réfléchir sur comment ça a pu arriver, sur qui sont les auteurs, sur comment est-ce qu'il y a peut-être un sentiment d'impunité ou voire même une mauvaise gestion des personnes qui sont dans des situations irrégulières. Et puis, la question de la récidive, la question du suivi des personnes en situation psychiatrique potentiellement dangereuse pour la société. Et donc, tout cela, ça nous oblige à quelque chose. Non, ce n'est pas un fait divers. Ça nous oblige à regarder les difficultés de notre société et particulièrement, encore une fois, les missions de la police et comment est-ce que finalement on ne parvient pas à endiguer des choses sur lesquelles on devrait faire de la prévention, de l'anticipation pour éviter que des drames comme celui-ci, qui est bien indicible, n'arrivent.
Merci Linda Kebab. Je rappelle que vous êtes déléguée unité SGP Police. C'est ainsi que s'achève cette nouvelle édition d'Europe Soir. Dans quelques instants, votre grande soirée sport, on remet le ballon d'or ce soir et c'est très probablement un Français. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, 19h, 20h.
Raphaël Delvolvé.